Arthur Conan Doyle, Idylle de banlieue. Chapitre 1. Les arrivants. Pardon, madame, dit la voix d'une domestique partant de quelque endroit près du coin de la porte. Le numéro 3 en ménage. Deux petites vieilles dames, assises de chaque côté d'une table, se levèrent aussitôt en jetant des interjections de curiosité et coururent à la fenêtre du salon. « Faites attention, chère Monique !» dit l'une d'elles en s'enveloppant dans la tenture de dentelle. « Qu'on ne nous voit pas !»« Non, non, Berthe, nous ne devons pas leur donner des motifs de croire que leurs voisins sont indiscrets. Mais je crois que nous ne risquons rien en nous tenant comme cela. » La fenêtre ouverte donnait sur une pelouse en pente douce, bien tendue et agréable, avec ses massifs de roses mousseuses, et une plate-bande faite en forme d'étoile avec des œillets. Cette pelouse était bordée d'une grille en bois, basse, qui la séparait d'une large route nouvelle, empierrée. De l'autre côté de cette route, on voyait trois grandes villas formant des bâtiments distincts à grande profondeur, avec des pignons pointus et de petits balcons de bois, chaque villa isolée dans son petit carré de gazon et de fleurs. Toutes trois étaient neuves, mais les numéros 1 et 2 avaient des rideaux et un air de calme assis et faisaient songer, dans leur tranquillité, à une existence humaine pleine de sociabilité. Le numéro 3, au contraire, avec sa porte béante, son jardin à l'abandon, n'avait sans doute été que récemment meublé et mis en état de recevoir ses occupants. Une voiture à quatre roues était arrêtée devant la porte, et c'était de ce côté-là que les vieilles dames, aux aguets, comme des oiseaux, derrière leurs rideaux, dirigeaient leurs regards curieux et interrogateurs. Le conducteur était descendu et les voyageurs qui se trouvaient à l'intérieur lui faisaient passer les objets qu'ils devaient transporter dans la maison. Cet homme rougeau, aux yeux clignotants, restait dehors, tendant les bras ployés, pendant qu'une main d'homme, sortant de la voiture, y déposait une série de colis dont la vue ébahit ces curieuses vieilles dames. « Ah, mon Dieu !» s'écria Monique, la plus petite et la plus ratatinée des deux. « Comment appelez-vous cela ? On dirait quatre puddings !»« Ce sont des objets dont les jeunes gens se servent pour boxer entre eux, » dit Berthe, de l'air d'une personne qui se connaît aux choses mondaines et qui le sait. « Et ces objets-là ? » Il s'agissait de deux gros morceaux de bois jaune en forme de bouteille qui avaient été chargés par le conducteur. « Oh, pour cela, je ne sais ce que c'est !» avoua Berthe, car les massues indiennes n'avaient jusqu'alors joué aucun rôle dans sa paisible et très féminine existence. Toutefois, ces objets mystérieux firent place à d'autres qui étaient plus à portée de leur intelligence, comme une paire d'haltères, un sac rouge pour le jeu de cricket, un assortiment de crosses pour le golf et une raquette de tennis. Finalement, lorsque le conducteur chargé d'une montagne de colis qui faisait saillie dans tous les sens eut parcouru en chancelant l'allée du jardin, on vit sortir du cab, sans se presser le moins du monde, un grand jeune homme de puissante carrure, avec un petit chien bulle sous le bras et un journal de sport sur papier rouge. Il fourra le journal dans la poche de son cache-poussière jaune clair et tendit la main comme pour aider une personne restée à l'intérieur à descendre. Les deux vieilles dames furent cependant bien surprises de voir sa paume tendue écartée d'une vive poussée, en même temps que, du cab, une dame de grande taille sortait sans aide. D'un geste de reine, elle montra la porte au jeune homme. Puis, une main sur la hanche, dans une attitude insouciante, flâneuse, elle resta près de la porte, tout en donnant des coups de la pointe du pied contre le mur et attendant distraitement le retour du conducteur. Comme elle se retournait lentement et que le soleil donnait en plein sur sa figure, les deux curieuses furent stupéfaites de voir que cette dame, si active et si énergique, était bien loin de sa première jeunesse, attendu qu'elle était certainement redevenue majeure une seconde fois depuis qu'elle avait passé cette première borne de l'existence humaine. Sa figure au galbe fin, aux traits bien nettement dessinés, avait quelque chose qui rappelait le pot rouge, dans la fermeté de la bouche, dans la saillie très marquée des pommettes, et on y voyait même à cette distance les traces du frottement laissé par le passage des années. Elle n'en était pas moins fort belle. Au repos, ses formes avaient la même fermeté que celle d'un buste grec, et ses grands yeux sombres étaient abrités sous deux sourcils si noirs, si épais, à la courbure si délicate, que le regard oubliait ce que les traits de la figure avaient de dur, pour admirer leur grâce et leur force. En outre, son corps était aussi droit qu'une flèche, un peu replet peut-être, mais offrant des contours magnifiques, et le costume étrange qu'elle portait contribuait autant à les souligner qu'à les dissimuler. Sa chevelure noire, mais abondamment semée de gris, était simplement ramenée en arrière de son front élevé et était massée sous un petit chapeau de feutre rond, pareil à celui d'un homme, avec une simple touffe de plumes placée dans le ruban comme concession à son sexe. Une jaquette à double revers, de quelques gros draps couleur foncée, la moulait exactement. Sa jupe bleue, tombant droit, sans rien pour la relever et la serrer, était assez courte pour permettre de voir la courbe inférieure de ses jambes finement modelées, terminée par une paire de chaussures larges, plates, aux talons bas et aux bouts carrés. Telle était la dame qui flânait à la porte du numéro 3, sous les regards curieux des deux voisines d'en face. Mais si les allures et son extérieur avaient déjà offusqué un peu leur instinct borné et étroit de la convenance, que durent-elles penser du petit acte qui fut le second de ce tableau vivant? Le cocher, personnage rougeau et joufflu, était revenu de son travail et tendait la main pour recevoir son paiement. La dame y mit une pièce de monnaie. Il resta un instant à grommeler et à gesticuler, quand, soudain, elle le saisit à deux mains par la cravate rouge qui lui entourait le cou et se mit à le secouer comme un terrier fait d'un rat. Elle le poussa sur toute la largeur du pavé, le jeta contre sa voiture et trois fois lui cogna la tête contre les côtés de son propre véhicule. « Puis-je vous servir à quelque chose, ma tante ?» demanda le gros jeune homme en venant s'encadrer dans la porte. « Pas du tout !» dit la dame furieuse et essoufflée. « Voilà, espèce de vaurien, pour vous apprendre à vous montrer impertinent envers une dame !» Le cocher regarda avec embarras autour de lui, d'un air abasourdi, interrogateur. On eût dit qu'il était le seul homme qui eût jamais été traité de cette façon inouïe, extraordinaire. Puis, se frottant la tête, il remonta lentement sur son siège et s'en alla, montrant le poing au ciel comme pour prendre l'univers à témoin. La dame égalisa les plis de son costume, rejeta en arrière sa chevelure sous le petit chapeau de feutre noir et se dirigea à grandes enjambées vers la porte du vestibule qui se ferma sur elle. Et, au moment même où sa jupe courte disparut avec un froufrou dans l'obscurité, les deux spectatrices, Miss Berthe et Miss Monique Williams, se regardaient avec un ébahissement qui leur ôtait la parole. Pendant 50 ans, elles avaient regardé par cette petite fenêtre au-delà de ce jardin si coquet, mais jamais un spectacle comme celui-là ne s'était offert à leurs yeux et ne les avait si bouleversés. « Je crois, dit enfin Berthe, que nous aurions mieux fait de garder le champ. »« Moi aussi, je le voudrais bien, répondit sa sœur. »